Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour les amis, merci, vous êtes en direct. Troisième et dernière journée de l'édition 2025 du salon immobilier bas carbone, le CIPCA, ici au Grand Palais, qui fut en son temps un ouvrage éphémère, que ça a été pensé de façon éphémère, et c'est devenu maintenant un joyau architectural du patrimoine français. On est au Grand Palais, donc on ne peut pas être mieux, il fait beau en plus, il fait un soleil magnifique. Donc on égrène un peu la planète immobilière de ceux qui fabriquent la ville, qui la pensent, qui l'imaginent, qui la transforment. Bien évidemment, bah, ça tombe bien, on a un architecte qui transforme la ville également, les bâtiments, qui les pense, avec beaucoup d'innovation. Il est le patron de l'agence éponyme, c'est Axel Chenard qui est avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Merci d'être avec nous. Axel, vous êtes un architecte et vous avez travaillé sur plusieurs opérations. J'en ai relevé quelques-unes. Mais dans un premier temps, je vais vous demander de nous présenter un peu votre agence d'architecture, qu'on vous connaisse un peu mieux. Vous êtes installé au cœur de Paris, avenue de l'Opéra.
Exact. Donc moi, je suis d'origine allemande. J'ai fait mes études en Allemagne et après aux États-Unis. Et par un hasard, je suis arrivé à Paris. Et finalement, j'adorais Paris et je restais à Paris. Et je commençais à travailler à Paris au début tout petit. Aujourd'hui, j'ai une agence qui s'appelle ASA, ou Axel Chenard Architects, avec une cinquantaine de collaborateurs. On est très spécialisé sur la restructuration et l'extension et des immeubles existants. Donc j'adore travailler en centre-ville, pas que à Paris. Travailler avec l'ancienne, rajouter du neuf, et voilà, ça fait déjà 25 ans, donc bien avant le PLU bioclimatique qui sortait cette année, qui fait exactement ça.
Vous saviez il y a 25 ans que la régénération urbaine, la rénovation, la restructuration, ça allait devenir la règle?
Oui, mais...
C'était moins évident il y a 25 ans.
Quand j'arrivais, c'était encore la façadisme. Ça veut dire que j'ai découvert à l'époque des immeubles qui étaient des façades restées, des façades haussmanniennes, mais derrière, il y a un trou, il n'y a plus rien, jusqu'au moins 3. Et après, ils ont rajouté des étages, là un peu où ça s'arrangeait, parce que chaque fois, évidemment, la pression immobilière, en disant, voilà, il faut rajouter un étage. Et on retrouve aujourd'hui encore des étages qui traversent les fenêtres, spécialement dans les immeubles bureaux. Ouais. Donc, heureusement, cette partie-là, on n'a plus le droit de faire.
Oui, il fallait. Voilà, c'était l'urbanisme triomphant. Et puis aussi, on peut le dire, hein, dans des grandes agglomérations contraintes, un peu de spéculation immobilière.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, tout ça a provoqué une crise sans précédent, puisqu'on est quand même sérieusement emmerdé déjà depuis 2 ans dans l'immobilier, puisque vous le savez, on est en crise, les amis, avec un marché du neuf qui s'est rétréci de moitié. Un marché de la location sur le logement qui s'est rétréci également de moitié, donc on peut pas dire que ça, voilà, que la période est flamboyante. Donc du coup, nécessité d'ailleurs, si on y réfléchit bien, d'avoir finalement des modes constructifs innovants. Votre agence, qui est quand même une des plus grosses agences de France, parce que une agence qui a 50 collaborateurs, ça fait pas partie des petites agences, puisque 90% des agences d'architecture en France ont moins de 5 personnes, 5 collaborateurs. Donc vous faites partie finalement des acteurs marquants, ce qui démontre la pertinence de vos projets. Il y a plusieurs projets que j'ai égrenés, que j'aimerais vous m'en parliez. J'aimerais qu'on parle notamment d'une opération emblématique, on n'en dira pas plus, mais c'est le siège d'RTL, vous vous rappelez ? La valise RTL. Moi, c'est toute ma jeunesse, rue Bayard, à une encablure, là, à 3 minutes, à pied, à l'angle de la rue François 1er, la rue Bayard, où il y avait les grandes gueules, où il y avait les grands, vous savez, ce grand slogan, ce grand jingle, RTL, tan, 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 tan. Ouais, RTL, c'était génial. Vous l'avez, c'est extraordinaire, parlez-moi de ce projet.
Oui.
Alors, c'est magnifique. Hein,
merci. Alors, RTL était acheté, je crois, par M6. Hein, et comme tous les médias, ils sont finalement déménagés, je crois, à Boulogne-Billancourt. Et ils étaient propriétaires des murs, donc ils ont fait un appel d'offres pour vendre les bijoux de la famille. Et nous, on a fait équipe avec La Salle Invest et Nexity. Contre le reste du monde, parce que quand à Paris un projet comme ça, tout le monde le regarde. Et finalement, on a gagné cette concours appel d'offres. Et pour moi, c'est un projet typique ASA parce qu'en réalité, c'est trois projets en un. Parce qu'il y a eu un bâtiment années 60, il y a un bâtiment haussmannien, il y a un bâtiment du 17e siècle. Donc en principe, on a traité, on a regardé, on fait toujours des analyses, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne peut pas garder, etc. Et donc finalement, on a gardé le haussmannien, c'est devenu le bâtiment de référence parce que c'était des bons niveaux, etc. Et on a démoli les années 60. On a construit le premier bâtiment en bois au centre Paris, qui était venu un immeuble bureau. Et on a réinventé avec les architectes des bâtiments de France l'entrepôt, c'est de l'entrepôt du théâtre du Rond-Point, qui était du 18e siècle, qui était massacré dans tous les sens. Donc on a essayé de retrouver des plans de façade, etc. Donc on a rénové ou réinventé ce truc. Donc finalement, on a trois bâtiments. Un bâtiment en bois, parce que le nouveau la construction, c'est un poteau plancher bois et deux bâtiments rénovés. Donc en total, ça fait à peu près 9000 mètres carrés. C'était très vite loué et vendu en VFA à la fin de l'opération à une assurance. C'est une assurance qui a acheté ce produit.
Absolument. Ce qui est logique d'ailleurs, dans une certaine mesure, vu la location de l'actif, des projets emblématiques, il y en a d'autres aussi. Alors c'est intéressant parce que dans vos projets, il y a des choses très différentes, mais il y a un dénominateur commun. C'est le cœur de ville.
C'est le cœur de ville, c'est le bois.
En fait, l'agence, elle a un savoir-faire bois. Oui. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de la fondation, du fonds d'attention que vous avez créé, mais il y a un savoir-faire dans l'agence d'architecture qui vous distingue, en fait.
Je sais pas si
vous avez créé une culture. Non, mais les collaborateurs, les jeunes architectes que vous accueillez aujourd'hui, que vous formez également.
Oui.
Vous les orientez sur cette. Parce que vous êtes d'accord, Axel, on ne fait plus le même métier d'architecte aujourd'hui que vous le faisiez il y a 25 ou 30 ans.
Mais bien sûr. En principe, il faut toujours se réinventer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire toujours. Et quand je vois des équipes chez nous qui reprend des mêmes concepts ou des couleurs, des matériaux d'un autre projet, ça m'énerve. Et je dis non, il faut refaire. Il ne faut pas faire des copy-call parce que chaque projet, on fait une analyse du projet. Après, il y a une storytelling, une histoire à raconter sur le projet, sur l'histoire du passé, d'aujourd'hui et du futur. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et notre approche était toujours aussi d'être très bas carbone. Bon, maintenant c'est la mode, mais on a fait ça déjà depuis 20 ans, 25 ans. J'étais, je crois, le premier à Paris qui a essayé de vendre des faux plafonds rayonnantes, donc pas des ventilo-convecteurs. Et on m'a toujours regardé, on a dit non, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et finalement, je crois, il y a à peu près 10-15 ans, il y a eu finalement un investisseur, c'était une assurance, c'était MEAC, c'est une assurance allemande, qui ils ont dit, OK, on a restructuré tout un complexe 55 Haussmann, on avait des faux plafonds rayonnantes. La qualité, elle est exceptionnelle et c'est très écologique, c'est très calme, c'est pas bruyant, etc. Mais ça a pris du temps et les gestionnaires, ils disent toujours « Ah non, ça ne fonctionne pas ». Donc il y a toute une formation
Axel,
de tous les métiers du business.
Vous êtes devenu architecte en France ou en Allemagne ? Vous êtes devenu architecte en France ou en Allemagne ?
Non, en Allemagne.
Vous êtes arrivé à Paris, vous étiez déjà architecte.
C'est ça.
Oui. Parce que c'est intéressant. Vous êtes architecte depuis combien de temps, à peu près ?
Plus que 25 ans, 30 ans.
Voilà. Non, mais on est de la même génération. Et vous avez gardé l'innovation chevillée au corps. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'âge que vous avez, le fait de ne jamais vous arrêter sur l'acquis, sur ce qui est acquis, d'accord ? C'est une dynamique différente, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
C'est-à-dire que vous innovez malgré toute l'expérience qu'il y a derrière vous. Souvent, je me suis entretenu avec des architectes emblématiques, comme Lipskin aux États-Unis, ou Ricciotti avec une forme. Ricciotti, il est extraordinaire, il est complètement perché, mais il est extraordinaire, il a une vision intéressante. Ce qui m'intéresse dans votre expérience, c'est comment vous avez gardé avec l'expérience cette idée de dire tous les jours on fait du nouveau, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
On s'arrête pas du tout sur nos acquis.
Parce que je pense, comme tous les métiers, si on pense, on s'assoit sur ses
lauriers,
ça marche bien pendant quelques années et tout d'un coup, on est has-been, on est dépassé. Et ça, c'est un sujet, hein, parce qu'en plus, il y a toujours des jeunes architectes qui viennent, il y a toujours. Moi, je préfère me battre en Champions League dans une compétition et même si je perds, j'ai perdu contre des très bons. Si je gagne un concours en régional ou départemental, ça ne m'intéresse pas.
J'adore. Faut que je reprenne ça, Jason, faut l'enregistrer, ça. Je préfère jouer en Champions League, même si je perds pas, ça des très bons. C'est une punchline, là, c'est de la radio. Il y a d'autres projets que je voudrais qu'on égrène, parce que je voudrais voir aussi, c'est le 133 Saint-Honoré.
Oui, alors 133 Saint-Honoré, c'est...
Ça aussi, c'est magnifique.
On a livré il y a quelques mois, on a eu la conformité la semaine dernière. Donc c'est adossé à la résidence de l'ambassadeur de Canada, donc un voisin un peu délicat et sensible. Voilà. Heureusement, ce n'était pas l'ambassadeur des États-Unis. Avec la sécu, etc. et on a j'arrivais à convaincre le client parce qu'il y a eu un peu de résidentiel qui traînait dans le bâtiment parce que c'était loué en bureau, je pense. Et on a dit, voilà, on arrivera à démolir un bâtiment sur le fond de la parcelle si on explique que c'est une opération mixte. C'était déjà un an avant le nouvel PLU. On fait une opération mixte, on fait du logement derrière et on rénove le bâtiment sur rue en bureau. Donc finalement, on a vu ça avec la ville, il était d'accord. Donc on a démoli 200-300 mètres carrés qui n'est pas très intéressant. Et on a construit un bâtiment de 800 mètres carrés. Pareil, en béton bas carbone avec bas carbone plus une structure bois. Donc c'est un peu plus compliqué dans le logement parce que en bureau avec le bois. Et on a créé 800 mètres carrés de logements qui sont superbes en fond de parcelle, sont super
mais
après.
Du très haut niveau, hein, vendu très très cher.
Oui, c'est un peu cher, mais c'est des rooftops, des terrasses.
Non, mais là on est sur le, là on est, attendez, là on est sur, le, on est dans le cœur battant de ce qu'on appelle le, c'est un peu l'avenue Montaigne. Hein,
c'est une adresse extraordinaire.
C'est intéressant justement d'avoir intégré, parce que effectivement avec les impératifs du PLU. Qui sont quand même assez draconiens, une opération mixte qui est en train de se développer. Il y en a une autre aussi qui est magnifique. Alors là, je connais bien parce que dans cette rue, c'est la rue de Charonne, on est au centre de Charonne. Alors pour moi, c'est aussi l'histoire d'une famille, puisque c'est là qu'on avait tous les ateliers de confection. Voilà, lorsque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le retour sur Paris, il y a eu beaucoup de juifs ashkénazes qui sont venus faire les ateliers de confection et qui ont construit, en fait, et qui ont fabriqué tout le linge, voilà, tous les habits, les habits de la confection. Et tous les ateliers étaient rue de Charonne. Et il y avait des friches industrielles, et d'ailleurs, je crois que le centre de Charonne était à la base une friche industrielle.
C'est ça, c'était un immeuble atelier industriel avec une architecture en briques, typiquement 11e arrondissement, avec des cours très longues, avec des allèges en briques, avec des poteaux métalliques.
C'était la brique rouge ou la
brique rouge. Enfin, c'était des différentes couleurs de briques, mais c'est un espèce de jeu de différentes couleurs de briques. Structure métallique verticale.
C'est ça.
Et après, ils ont rajouté dans les années 70 une bardage horrible en gris.
Ah ouais.
Donc, et c'était occupé par la RATP pendant une
déprimant.
Trentaine d'années. Ah, c'est très déprimant. Oui. Et la cour, elle était complètement asphaltée. Il n'y a pas une goutte de l'eau pouvait traverser dans le sol. Donc nous, dans le projet qu'on a fait pour Covea, parce que Covea a acheté ça, la RATP est partie. On n'a pas fait une opération mixte, mais c'est un peu opération mixte parce que le rez-de-chaussée, on a gardé les surfaces commerciales. Et on a essayé de revitaliser le socle pour que ça vienne le socle du quartier. Et au-dessus, c'est des bureaux, reste des bureaux. Par contre, on a rajouté au centre du îlot un bâtiment en bois, on appelle ça le bâtiment pont parce qu'il fait la liaison entre les différentes ailes. Plus, on a partiellement surélevé le bâtiment de un étage avec des structures bois. Donc, il y a, je crois qu'on a créé 3000 mètres carrés de nouvelles structures en bois, plus 12000 mètres carrés existants. Et avec Covea, qui sont très ambitieux sur le développement durable, on a créé on a fait une pompe à chaleur qui va dans la nappe, et donc on n'est pas raccordé sur aucun réseau urbain, mais on produit notre propre
chaleur. C'est la géothermie.
C'est la géothermie. Avec
géothermie, vous êtes descendu vachement bas alors.
Oui, je ne sais pas exactement, mais c'est 100-120 mètres, on est descendu dans une nappe.
On fait
des études s'il y a une nappe qui est assez forte, grande, etc. Oui.
Et donc vous avez utilisé la géothermie un peu comme l'a fait le palais de l'Elysée.
Exactement, oui, on a géothermie. En principe, si je me abonne sur...
Mais vous auriez pu vous raccorder au réseau de chaleur urbain.
Non, parce que je pense qu'il n'y a que du chaud, il y a le chaud, mais pas froid.
Et donc, ah d'accord. Et en plus, il y avait un... Mais ça coûte plus cher.
Oui, ça coûte plus cher, mais par contre, on est sûr qu'on sera neutre en CO2, parce que si je me raccorde sur une source électrique qui vient par des énergies renouvelables, je fais ma pompe à chaleur, je consomme zéro électricité avec des carbones.
Bien sûr.
Et la pompe, elle est, bah, c'est neutre. Donc finalement, je peux avoir un bâtiment en exploitation
pour le carbone. L'avantage, c'est que l'amortissement, parce qu'ils font des business plans sur du long terme, hein, les compagnies d'assurance.
Oui.
Ils font des. Donc en fait, finalement, c'est très vertueux comme.
Ah non, mais le bâtiment, on cible...
Il est livré, hein ? C'est livré ?
Non, c'est pas livré, mais on livre dans 4 semaines.
Eh ben, j'irai. Voilà.
Ouais,
j'irai.
Avec plaisir.
J'irai.
Et en plus, il est loué.
Intégralement.
Intégralement, totalement.
En fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce que d'un point de vue business, hein, parce que l'immobilier, en ce moment, c'est pas facile. Dès que ça devient vertueux, dès qu'il y a des modes constructifs ou de rénovation ou de régénération hyper ambitieux, innovants et beaux, j'insiste.
Ça attire les gens.
J'insiste sur la perspective, la luminosité. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Luminosité, perspective, renaturation, une forme de déminéralisation, entre guillemets, hein, permet aussi une certaine forme de décloisonnement aussi de l'esprit, qui fait que les personnes reviennent volontairement au bureau, avec beaucoup de plaisir.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Et on a chiffré d'ailleurs une étude très précise, hein, qui dit que quand on est sur ce type de fonctionnement et de rénovation, on a un accroissement de la productivité de l'ordre de 20%. Et un absentéisme réduit.
Ah oui, c'est clair. Nous, on a des rooftops, des terrasses partout, tout est végétalisé, on a des plateaux sont très éclairés, c'est des hauts plafonds. On a des services, enfin les services c'est après le locataire à prendre, mais on a fait des surfaces pour rajouter des services, donc oui, j'ai envie de travailler là-bas aussi.
Très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je voudrais quand même qu'on fasse un petit point rapide sur la création du fonds, c'est un fonds de dotation. Hein.
C'est ça.
Vous avez créé un fonds de dotation qui s'appelle Ethica.
Exact, on a créé un fonds de dotation Ethica.
Sur la favorisation effectivement notamment de la filière bois, qui commence d'ailleurs à plutôt bien se structurer en France avec la possibilité de traquer et d'avoir des matériaux biosourcés. Parce qu'il y a un vrai sujet autour de la filière bois, c'est vraiment d'avoir un tracking de qualité, parce que voilà, pour pas que ce soit non plus délétère. Et vous vous êtes organisé avec un partenariat avec l'Université de Bordeaux. Mm-hmm. En fait, vous financez de l'intelligence, vous subventionnez de l'intelligence.
Oui. Alors on a signé deux protocoles, une avec l'Université de Bordeaux et une avec l'École d'architecture de Nancy, pour financer des doctorats. Donc, c'est différents sujets, mais moi, je choisis les sujets parce que je voulais que c'est des sujets un peu pragmatiques, applicables et que je comprends. Et je ne comprends pas grand-chose. Hein. Donc, c'est des mini-forêts en ville. On n'a pas inventé le sujet, mais c'était un Japonais, je pense, qui a commencé avec ça. Mais on travaille sur ce sujet, comment j'amène la végétation en ville. Le deuxième, c'est avec l'intelligence artificielle, avec les robots qui vont venir, de scanner des forêts entières pour savoir où j'ai quel arbre, qu'est-ce que je peux faire avec un arbre, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont dans la forêt. La seule personne qui sait où il y a un bon arbre, c'est le forestier qui gère. Et c'est le seul. S'il est en retraite, le nouveau, il ne sait pas. Mm. Et le troisième sujet, c'est du travail avec du bois ronde et courbée. Et donc, ronde et verte. Et donc ça, c'est un sujet qui est venu un peu à la mode avec le malheureux feu de Notre-Dame. Oui. Parce que comme ils voulaient restructurer la charpente à l'identique, donc on était obligé de prendre ça du bois ronde et verte. Ça veut dire que c'est du bois qui a que 2 ans de séchage, qui n'est rien pour une chaîne parce que c'est 10 ans. Mais on peut le travailler beaucoup plus, mais on a un arbre qui n'est pas parfait. Et finalement, si on travaille ces techniques anciennes, on peut exploiter le bois beaucoup plus intéressant. On a beaucoup moins de chutes qu'aujourd'hui. On prend n'importe quel arbre, on ne passe pas les machines, on fait des CLT, on met la résine et des choses comme ça. Donc finalement, c'est des choses en train de revenir un peu dans le passé pour aller dans le futur.
C'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un peu le paradoxe de l'histoire. Notamment redécouvrir des modes constructifs. Je pense à la pierre de taille.
Exactement.
Par exemple. Je pense à l'ardoise. Je pense à certaines techniques du bâtiment, et notamment des techniques du bâtiment qui étaient usitées à l'époque par les compagnons qui ont construit des bâtiments magnifiques. Et aussi la logique du chaud et du froid, du mode constructif et du bon sens, entre guillemets, paysan, qui avait, par exemple, parlé du bois. Fut une époque, moi j'ai eu la chance d'avoir dans ma première vie fait le compagnonnage, on trempait le bois pendant très longtemps, parfois des dizaines d'années, parce qu'on préparait le bois pour les générations suivantes. Et il y avait une espèce de transmission qui se faisait de génération en génération. Je trouve ça paradoxal, mais très intéressant humainement et anthropologiquement de redécouvrir ces méthodes, à l'instar d'une techno qui vous permet de le faire, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Ouais. Et je trouve ça génial de réunir les deux.
La récupération et l'économie circulaire existaient toujours.
Toujours.
On l'a oublié dans les dernières 40-50 ans.
Voilà. Hein.
Mais,
et on redécouvre les vertus de la récupération.
Ouais, quand vous regardez un bâtiment à Syracuse, par exemple, une église catholique.
Je connais très bien Syracuse.
Vous connaissez le temple grec,
très,
là.
Très, très bien.
Voilà, il y a un temple
extrêmement
grec.
Extrêmement bien.
Et ils ont toujours changé des centaines d'années. Ils ont
absolument.
Il n'y a rien qui se spoilait.
Absolument. Je connais très, très bien. C'est intéressant. Il n'y a pas de hasard. C'est un lieu magnifique. Voilà, on parlerait bien plus longtemps avec ça, mais j'étais content qu'on focus un petit peu. On peut avoir... Alors, on a un site internet, hein, de l'agence Anna,
oui.
On est d'accord, Axel Schoenart Architecture, qu'on va mettre avec le podcast, bien évidemment. Voilà, Axel Schoenart, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour revenir nous voir, hein,
ah
Radio
oui,
Imo.
C'était super sympa.
On est à côté de chez vous, on viendra avec grand plaisir, surtout ne changez rien.
Ouais.
Et bien évidemment, on est toujours ici pour planter de la ville, la cultiver, la faire développer, un peu comme un PLU, parce que maintenant on parle de PLU bioclimatique, on va en parler bien évidemment tout au long de cette journée. À tout à l'heure.
À bientôt.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Immo et Radio Territoria.